Nous accueillons le Père Jean-Jacques et le Père Pierre. Ils diront eux-mêmes après d'où viennent-ils. Certains vous connaissez, mais Jésus, dans l'Évangile, on sait d'où il vient. S'il y a quelqu'un qu'on peut dire que son acte de naissance nous est connu, c'est le Christ. On connaît l'acte de naissance du Christ. On sait depuis le début de l'Évangile qu'il est fils de Dieu. Et on sait déjà que l'Ancien Testament l'annonçait en disant « Dieu nous enverra son Fils ». Et donc quelque chose qui me choque de la bouche du diable, et vous allez me dire « c'est normal », c'est lorsqu'il dit « si tu es fils de Dieu ». On aurait pu se lever en se disant « mais déjà dès sa première phrase, ce démon, il est vraiment démentiel ». Il est déjà dans l'erreur, déjà en ouvrant la bouche, le premier mot qui apparaît, « si ». Est-ce que pour nous chrétiens, c'est une question de « si » ? Si tu professes, tu confesses, tu proclames de ta bouche que Jésus est fils de Dieu et que tu reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Donc si quelqu'un commence par vous dire « oui, mais est-ce que vous êtes sûr ?» Il faut surtout pas se tromper d'ennemi. Il faut surtout pas se tromper d'ami. En ce moment-là, c'est clair que celui qui remet en question, celui qui veut mettre le doute sur l'identité, la filiation de qui est Jésus, c'est que c'est la langue du vipère qui est en train de parler, frères et sœurs. Même si c'est votre oncle, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre cousin, votre beau-frère, votre belle-mère, encore, souvent les belles-mères disent des choses bien, dites à cette personne, il est écrit, Jésus est fils de Dieu, point barre, il n'y a plus rien à discuter. Parce que lorsqu'on discute avec le mal, il faut savoir que soit on discute, mais il faut discuter à partir de quoi? Si on discute mal, comme l'a fait Adam et Ève, on va dans le décor. On est perdu. Dans la Genèse, Ève a essayé de répondre à Satan. Mais je ne vais pas commenter ce texte de la Genèse, mais je vous le recommande. Allez-y voir entre ce que Dieu a dit à Adam et Ève et ce que Ève va redire, il y a un mot qui manque. Trouvez-moi ce mot. Vous allez voir que Ève n'a pas été fidèle réellement sur ce que Dieu leur a dit. La force du Christ, c'est que lui, son arme de Jedi, c'est la parole. Jésus est un vrai fidèle et il va montrer au mal que c'est à partir de la parole de Dieu qu'il sera vaincu, qu'il va le battre. Il dira toujours, il est écrit, il est écrit. Il faut rester dans l'écriture. Lorsqu'on sort de l'écriture, on va prendre plein de considérations d'ordre philosophique, ésotérique, idéologique, et on s'enferme et on est dans l'erreur. L'écriture est notre seul bouclier. La parole de Dieu comme l'arme par excellence pour faire quoi? Détruire et arrêter les flèches empoisonnées, enflammées du malin. Jésus est l'homme de la parole. Il y a une chose qui m'a quand même impressionné dans cette affaire, c'est que ça commence par la nourriture. Et je sais que vous et moi, nous aimons beaucoup manger. Sortez ici, vous allez voir le nombre de restaurants qu'il y a pour commencer depuis la porte ici jusqu'à Métro Chapelle. Je les ai comptés. Je suis impressionné par le nombre de kebabs, restaurants, McDo, patati patata, tout ce qu'il y a. Je me dis, mais attends, mais on fait que bouffer dans ce pays, c'est terrible. Nous sommes devenus des vrais gourmands. Je suis sûr que dans vos quartiers, dans vos villes, c'est la même chose aussi. Et donc, ça m'a surpris que la première tentation commence par nous parler de nourriture. Vous savez, Satan, il a l'air d'être intelligent, mais en fait, il est que malin. Il n'est pas intelligent, parce que l'intelligence, c'est l'Esprit Saint qui le donne. Et donc, comme il est toujours en train de utiliser les mêmes formules et la même démarche, comme avec Ève, c'était une question de nourriture, de manger, mais là aussi, ça va être toujours, il va commencer toujours par là. C'est comme lorsqu'il est dans la première lecture, vous avez entendu, le peuple qui est sorti de l'Égypte, quelle est la première tentation après le passage de la mer? Est-ce que quelqu'un se souvient? Alors, ce n'était pas une tentation, les lentilles de l'Égypte. C'était un souvenir qu'ils étaient en train de regretter. Mais la première tentation, ils eurent faim et soif, Massa et Meriba. Et c'est là qu'il leur donne la manne qui tombe. Et lorsqu'ils avaient faim et soif, ils commençaient à regretter en disant, mais en Égypte, on avait des oignons, des marmites, de soupe bien faite. Et pourquoi ici nous sommes en train de mourir? Donc, frères et sœurs, ça commence toujours par une question de bouffe, mais passez pas parce que nous sommes contre les restaurateurs qui sont ici dans l'Assemblée. C'est que c'est parce que le besoin fondamental de l'homme, nous serons tentés par ce que nous avons de fondamental. Ça va commencer par quelque chose de basique, simple, la nourriture. Et après, le malin va aller un peu plus loin parce que, à la différence d'Adam et Ève, où à la première tentation, ils étaient déjà dans le chaos, et comme Jésus résiste, là, on remet une couche, on rajoute. On quitte la question de la nourriture. Oui, parce que si vous avez quelqu'un qui vous résiste pour quelque chose de simple, vous allez dire, bon, allez, on monte d'un cran pour que on va voir si de cette manière, cette personne restera encore vivante. Et donc, c'est ce qu'il fait le malin. Il dit, voilà, maintenant je vais t'emmener plus haut. Hein? On nous dit, le diable l'emmena plus haut. On monte. Et il lui montre les royaumes de la terre. Il dit, voilà, comme tu es libre par rapport à ton estomac, maintenant je vais voir si tu es libre par rapport à ton désir de posséder les richesses, d'être riche, d'avoir du monde. Puisqu'au niveau de la nourriture, toi tu me bats, maintenant je vais voir si au niveau de ton apparence, de bien, de la richesse, d'être quelqu'un de aisé, si cela aussi va tenir. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Car il est écrit, c'est devant Dieu seul que tu te prosterneras et à lui seul tu rendras un culte. Et lorsqu'on a quelqu'un qui nous résiste encore, on se dit, bon, alors, une troisième chance, allons encore plus haut. Mais je vais vous montrer que ces degrés-là, ce sont vraiment des degrés terribles. Hein? C'est-à-dire, plus ça monte, plus c'est du costaud, plus c'est de la pierre. Il touche des lieux essentiels de la foi. Il touche les lieux essentiels dans la vie du Christ. Troisième degré, le diable le conduisit à Jérusalem. Voilà. Fallait qu'on y arrive. Jérusalem, la cité sainte, le siège du grand roi, la ville sainte. Dans la ville sainte, Jésus va être tenté. Et nous savons que à la Passion, c'est encore à Jérusalem qu'il va lui fixer rendez-vous. Et Jésus reviendra à Jérusalem pour traverser cette Passion, accepter cette souffrance, résister au mal jusqu'au bout, jusqu'à aller à Golgotha. Mais il l'amène à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est une ville pour un juif qui a beaucoup d'importance. Et pour nous aussi, les chrétiens. Il le place où? Pas sur n'importe quelle maison. Sur le pinacle du temple. La maison du grand roi. Le lieu de la prière. Et là, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Mais subtil, subtil. Puisque lui, son arme, c'est la parole, donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux aussi, moi aussi, utiliser la parole. Et comme Satan connaît bien la Bible, citation, jette-toi de là, car il est écrit, psaume 90, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Tiens, jusqu'à présent, c'était Jésus qui était l'homme de la parole. Et maintenant, Satan veut aussi dans un mimétisme, être lui aussi quelqu'un qui parle de la parole. Que nous veux-tu, toi ? Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ah oui, mais il sait des choses. Mais oui, c'est un ange. Il connaît la parole. Frères et sœurs, faisons très, très, très attention lorsque nous sommes tentés, surtout lorsque la tentation vient déguisée sous forme de bien, lorsqu'elle vient sous apparence spirituelle, religieuse. Oui, on est parti prier, mais en fait, en arrivant là-bas, ce n'était pas de la prière. Au début, on a ouvert la Bible, mais en fait, le nom de Jésus n'a jamais été prononcé. On s'est mis plutôt à faire de la divination, à tirer des cartes, à deviner, à faire affaire à des devins, à faire ressortir des défunts. Et on dit oui, mais c'était quand même de Dieu parce que c'était dans une église. Non, c'est pas parce que c'était dans une église, c'est pas parce que la personne s'appelait frère que nous devons croire que donc c'est du christianisme et que c'est du Jésus-Christ. Il peut aussi être déguisé, passer sous une autre forme, prendre des moyens légaux. On cite la parole, on fait un signe de croix, mais ça ne suffit pas. Il faut être totalement en Christ, comme le fait le Christ, c'est-à-dire quelqu'un de droit. Et lui, il reprend la même parole. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. On ne peut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Frères et sœurs, je conclue simplement pour nous dire que le carême est un temps de grâce. Même si c'est un temps dur, c'est aussi un temps de grâce. Car c'est un temps où nous ne sommes pas seuls dans ce désert. Le mal veut séparer Jésus de son Père. Il veut mettre le doute dans sa filiation. Il veut mettre le doute dans son attachement et dans son obéissance à la parole de Dieu. Le malin veut mettre le doute, couper la relation père-fils. Voilà le problème. Une fois que vous avez compris cela, il n'y a plus rien à chercher. Une fois qu'on a coupé la relation père-fils, c'est fini. C'est la mort. Ce matin, je recevais quelqu'un qui venait pour son futur mariage avec sa fiancée. Et j'ai vu les papiers, j'ai dit, nom du père, il n'y a rien qui est marqué. Il m'a dit, oui, je n'ai pas de père. Et j'ai dit beaucoup de choses à cette personne, mais je savais que lorsqu'il m'a dit, je n'ai pas de père, et j'ai vu sur l'acte de naissance, fils de, à la place du père, il n'y a rien qui est marqué, il y a un vide. Et je sais que lorsqu'on n'a pas de père, c'est dur. C'est important que nous puissions réaliser que notre attachement au père, à notre Dieu, doit être fondamental, car le mal veut briser cet attachement. À nous de savoir le garder, le confesser, garder sa parole sur nos lèvres, dans nos cœurs, le professer, confesser que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et nous serons sauvés. Amen.